Première question pour Pierre-Yves cette semaine. Ça, c'est vrai que c'est une maudite bonne question. Quand on achète notre première maison, bon, on nous offre évidemment certaines modalités, mais notamment de prendre une assurance vie qui est liée au prêt hypothécaire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire?
Là, Paul, on est dans un mode de surenchère où tous les jeunes couples se lancent, font des surenchères de 15-20%. Et là, Caroline K, deux N, pas de E, et William arrivent à la banque. Et là, le banquier dit, « Puis, votre assurance vie? » T'assurance quoi? Ben oui, l'assurance vie. Si jamais Caroline décède, William, tu ne devrais pas être pogné avec le prêt hypothécaire. Là, William ne réfléchit pas au fait qu'il peut vendre la maison, mais ça, c'est une affaire. Et là, il se dit, OK, et nous autres, c'est pas grave, on a une assurance à vous offrir qui est en lien avec le prêt hypothécaire. Si jamais vous mourrez, le prêt se paye. Et ça, pourquoi faut que j'en reparle tout le temps? C'est parce que c'est un problème qui revient de façon perpétuelle. C'est un produit qu'il faudrait presque désinventer. Ça devrait être une solution de rechange. On fait ça avec nos voitures, nos maisons, nos marges de crédit. Pourtant, une assurance vie, ça se prend indépendamment dans la logique des choses. Et donc, il y a plusieurs raisons de ne pas accepter tout de suite. Premièrement, la couverture est dégressive. C'est-à-dire, si tu prends l'assurance vie avec ton prêt hypothécaire, plus les années vont passer, moins tu vas être couvert. Mais tes besoins en assurance ailleurs sont peut-être aussi grands, donc il faut regarder ça. Deuxième point, tes besoins globaux, là, c'est pas de payer ton char, c'est pas de payer ta marge de crédit, puis c'est pas de payer ton prêt hypothécaire. Ton besoin global, c'est un besoin sur l'ensemble de tes actifs, sur le fait que tu as des enfants ou non, sur le fait que tu as des enfants avec des besoins spécifiques, que ton conjoint ou ta conjointe gagne moins que toi ou pas. Donc, il faut faire une analyse globale basée sur tes besoins et pas sur le fait que tu as un prêt hypothécaire sur une maison.
L'idée ou la question principale, c'est si je meurs, je ne veux pas laisser ma famille, ma femme, mes enfants dans le trouble.
Oui, mais tu n'as pas besoin de le prendre avec le prêt. Tu peux prendre une assurance vie ailleurs. Puis ce qui est le fun, c'est que quand, mettons, tu es avec la Banque nationale, tu passes à la Banque Royale. Après ça, tu t'en vas chez Desjardins. Dans 3-5 ans différents, ben, tu n'es pas obligé de recommencer le processus d'assurance-vie. Chaque fois, si tu as pris une assurance à l'extérieur du prêt, et ça te fait aussi un moyen de négociation de dire, écoute, je vais laisser mon assurance ailleurs, comme ça, quand je vais changer de banque ou d'institution financière, ça va être plus rapide. L'autre affaire, c'est qu'avec une assurance-vie qui est liée au prêt hypothécaire, sais-tu qui est remboursé en cas de décès?
La banque.
Et oui, mais tu sais, mettons que moi, je décède, puis j'ai une conjointe, puis ma conjointe dit, sais-tu quoi? Le prêt hypothécaire à 1,4%, moi, je veux le garder. Je veux pas. Moi, je veux un voyage dans le sud, puis je veux placer de l'argent dans Tesla, mettons, ou m'acheter un char, ou peu importe. Donc, t'es pas obligé de rembourser le prêt hypothécaire parce que la personne meurt si tu as une assurance vie qui est pas avec le prêt hypothécaire. Et aussi, il y a une question de santé. Tu sais, moi, mettons, ça va bien, là, j'ai 41 ans, je me sens bien invincible, mais dans 3 ans, ça se peut que ce soit différent. Et s'il faut que je change d'institution financière et que je recommence le processus d'assurance que j'avais pas pris ailleurs temporaire pour une autre raison, ça se peut que je sois moins en forme puis que là, je suis obligé de déclarer « Ah, mon père a telle maladie, ma mère a telle maladie » parce qu'on vieillit tous. Et donc, vaut mieux regarder son assurance comme une patente à part puis être ami avec un courtier.
Que de lier ça, oui, quand on peut ou quand on pourra. Mais donc, ce que tu dis, dans le fond, c'est de ne pas lier ça à une activité précise comme le prêt hypothécaire ou
la voiture.
La voiture, par exemple.
Puis là, bon, okay. Je vais être bien honnête avec toi, j'ai déjà. Après une chronique du genre, il y a quelques années, il y a quelqu'un de haut placé dans une institution financière québécoise qui m'a appelé pour me donner un peu de. Un peu de. Me rabrouer, tu sais. Au bout de 15 minutes de discussion, la personne n'a pas eu le choix de me donner raison. Mais elle me dit oui, mais mettons que quelqu'un arrive à la banque, là. Puis qui signe le prêt hypothécaire, puis qui n'était pas assuré, puis qui se fait écraser en sortant de la banque. Hein? Tu fais quoi, toi? Ouais, j'avoue que c'est un cas extrême, mais s'il avait fait affaire avec un courtier, là, ben il serait allé se négocier son prêt avant de rentrer à la banque, et donc, il aurait pu se faire écraser aussi. Ah ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, je peux vous dire une chose, les gens qui sont dans des institutions financières ne prennent pas ces produits-là pour eux-mêmes. Ils vont prendre l'assurance-vie.
Oui, c'est ça, ça en dit long.
C'est comme le dentiste, Paul, qui dit « Moi, je prends des plombages de tel type. »
OK, t'sais? Un mot sur les gens qui décident de changer d'emploi ou en fait de quitter leur emploi, l'expression de se réorienter. Toi, tu dis il y a un coût pour ça.
Oh, je voulais pas être plate, là, mais un matin, ça me tentait de mettre un petit peu de bémol. Tu sais, il y en a beaucoup qui retournent aux études, puis c'est normal, pandémie, c'est le temps, t'as perdu ta job. Mais quand t'as pas perdu ton emploi, mais que tu veux le bonheur, c'est correct, mais le bonheur a un prix. Puis le retour aux études, il y a quelques coûts. Comme par exemple, le coût de retourner à temps plein, souvent on sous-estime, mais si tu retournes à temps plein, t'as beau dire que tu vas baisser ton mode de vie, mais tu renonces à ton salaire que tu gagnais ailleurs. Donc, si ton salaire est relativement bien et que tu retournes aux études par bonheur, ben, il y a un coût lié à ça. Deuxièmement, il y a évidemment le coût supplémentaire lié aux études pour que tu payes tes frais s'il y en a. Il y en a d'autres qui disent pas grave, je vais m'endetter ou je vais prendre un régime d'encouragement d'éducation permanente. Ça, c'est comme un rap, mais pour aller aux études. Mais si tu fais ça, faut que tu rembourses sur 10 ans, puis pendant ce temps-là, ton régime de retraite, il prend pas de valeur. L'autre point, c'est que quand tu quittes un emploi pour retourner aux études, te réorienter, tu sais, tu laisses tomber de l'assurance vie, de l'assurance médicaments, de l'assurance invalidité potentiellement. Est-ce que tu vas avoir ça dans ton nouvel emploi après tes études et comment tu vas te couvrir pendant tes études? L'autre point, c'est que si tu retournes aux études sur une année, deux années, trois années, ton régime de retraite, tu y cotises pas. Alors ça, comment tu vas compenser le manque à gagner après ton retour? Est-ce que tu fais un DEP qui va vraiment augmenter ta valeur ou tu veux vraiment aller refaire un bac puis une maîtrise dans un domaine où tes revenus seront pas nécessairement plus élevés que ce que tu fais maintenant, dépendant de ce que tu fais? Et l'autre point, c'est que plus tu vieillis, plus le coût de renonciation est grand et plus c'est dur de recommencer à zéro parce que si tu recommences à zéro dans une nouvelle fonction, faut que tu te refasses un nom, refaire une valeur marchande, faut que tu redéveloppes des aptitudes. Et là, je te parle même pas de l'entrepreneuriat, tu sais, de risquer ta famille puis leur bien-être financier pour un projet d'études. Mais Paul, je suis d'accord, le bonheur, ça vaut quelque chose. Mais il y a toujours un prix au bonheur.
Merci.
Salut.
Cupidon.
Oui.
Salut. 7h23. C'est la radio du bonheur, un autre exemple ici. Oui, alors, on va aller voir le pont Mercier.